Le vendredi, dans la méthode scientifique, comme une semaine sur deux, on va parler de fiction. Revivre la mission Atlantis, le dernier vol habité de la navette américaine, comme si vous y étiez, des dernières minutes de la préparation sur Terre à l'arrimage à la Station Spatiale Internationale et à la vie en impesanteur, ou revivre, grâce à un progrès scientifique inédit, les plus sombres heures de l'occupation japonaise de la Chine, mais au prix de la destruction de ses souvenirs, de ses fragments d'histoire. Ce sont les deux récits que nous proposent les auteurs que nous recevons aujourd'hui. Christine Montalbetti et Ken Lius sont les invités de cette table ronde fiction que nous allons dérouler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Christine Montalbetti.
Bonjour.
Vous publiez « La vie est faite de toutes petites choses » chez POL. Merci beaucoup d'être avec nous ici à la méthode scientifique. Et nous sommes très heureux également d'accueillir autour de cette table Ken Liu. Bonjour.
Hello.
Vous êtes venu des États-Unis pour participer au Forum America à Vincennes, au festival américain dont France Culture est partenaire, en cette journée spéciale à l'antenne consacrée aux États-Unis, tout au long de la journée sur France Culture. Ken Liu, votre roman « L'homme qui mit fin à l'histoire » vient d'être traduit aux éditions Bélial. On vous retrouve tous les deux dans une petite dizaine de minutes, puisque le vendredi, comme chaque vendredi pour commencer, on retrouve avant tout Michel Alberganti. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
Pour le Journal des Sciences.
Le Journal des Sciences.
Et on commence ce journal des sciences, Michel, par la signature de l'accord de Paris sur le climat par les deux plus gros pollueurs de la planète, la Chine et les États-Unis.
En effet, Nicolas, la nouvelle est tombée le samedi 3 septembre, veille de la réunion du G20 en Chine à Hangzhou. Le Parlement chinois venait d'adopter l'accord de Paris sur le climat, approuvé le 12 décembre 2015 en France à l'issue de la COP21. Vous vous souvenez, Nicolas, du cri d'alerte lancé par Laurent Fabius, ancien président de cette même COP21, dans une tribune publiée dans Le Monde du 30 août.
Et oui, on en avait d'ailleurs parlé, Michel, jeudi dernier, dans la méthode scientifique avec notre invité Ami Dahan.
Mais on n'imaginait pas ce jour-là pareille efficacité de la tribune de Laurent Fabius. Il écrivait alors, en regrettant que les 5 plus gros émetteurs de CO2 de la planète n'aient pas ratifié le texte de l'accord de Paris près de 9 mois après son approbation. Je cite, « Il est vrai au sens propre qui... » Il est vital, pardon, au sens propre qu'il le fasse et vite. Le sommet du G20 à Hangzhou début septembre et la conférence climat de Marrakech en novembre fournissent l'occasion. Face à une telle injonction de Laurent Fabius, la Chine et les États-Unis ne pouvaient que s'exécuter. Et ils l'ont fait. Nous avons demandé à Valérie Masson-Delmotte, chercheure au CEA et coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC, le groupe qui traite de la physique du climat, de nous rappeler les conditions nécessaires pour que l'accord de Paris entre en vigueur, ainsi que de nous expliquer ce qu'apporte la signature de l'accord par la Chine et les États-Unis. Elle répond au micro de Noémie Nagué de Saint-Bulfranc.
Pour l'accord de Paris, pour qu'il rentre en vigueur, il faut qu'il soit ratifié par 55 pays qui représentent au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. Pour le moment, il y avait essentiellement des pays en développement, des pays vulnérables qui représentaient une toute petite partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre qu'il avait ratifiées, de même que la Norvège. La France a fait et la Hongrie dans l'Union européenne ont fait les démarches en interne, mais l'Union européenne à 28 déposera d'une manière cohérente, en fait ensemble, la ratification et à cause des démarches administratives européennes, c'est quelque chose qui sera relativement long. La ratification par la Chine et le fait que les États-Unis se joignent à la signature de l'accord de Paris va accélérer la procédure.
Alors hier, lorsque nous l'avons interviewé, Valérie Masson-Delmotte ignorait encore l'annonce par Washington de l'engagement de l'Inde à ratifier l'accord de Paris avant la fin 2016. L'Inde est la source de 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors la ratification attendu de l'Union européenne viendra s'ajouter à ces premiers engagements. Il ne manquera plus que la Russie parmi les 5 plus gros émetteurs. Il semble donc bien aujourd'hui que l'accord de Paris puisse entrer en vigueur rapidement, comme l'indique d'ailleurs Valérie Masson-Delmotte.
Dans l'accord de Paris, il est prévu qu'il rentre en vigueur en 2018. Compte tenu de ces informations nouvelles et puis des engagements qui sont présents, il est possible qu'il rentre en vigueur avant 2018, peut-être au début de l'année 2017.
Et l'autre bonne nouvelle de cette semaine, Michel, c'est qu'on a retrouvé la sonde Philae sur la comète Tchoury.
Exactement, Nicolas. Et il était temps. C'était lundi dernier, le 5 septembre, l'Agence spatiale européenne l'ESA a annoncé que la sonde européenne Rosetta avait enfin réussi à localiser le petit atterrisseur Philae qui s'était posé sur la comète Churyumov-Gerasimenko.
Tchoury, c'est plus facile.
Le 12 novembre 2014, le harpon qui devait arrimer Philae sur Tchoury, ayant mal fonctionné, l'atterrisseur avait rebondi sur la planète avant de disparaître.
Oui, ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché Philae d'envoyer quelques données pendant plusieurs jours, Michel.
En effet, mais Philae, s'il a pu communiquer avec Rosetta, les informations envoyées, en particulier celles concernant le terrain environnant, était difficile à interpréter tant que l'ESA ne connaissait pas le lieu exact d'où ces informations provenaient. C'est désormais chose faite et les responsables de la mission sont rassurés et même ravis, preuve qu'ils n'étaient pas loin, ils étaient loin d'être certains de pouvoir localiser le petit robot avant qu'il ne soit trop tard. En effet, le 30 septembre, Rosetta va s'écraser sur Tchoury en collectant jusqu'au dernier moment un maximum de données sur la comète.
Et encore une bonne nouvelle, hein, c'est le journal des bonnes nouvelles avec vous Michel, cette fois sur un animal que le monde entier adore.
Eh bien, vous parlez bien entendu du panda géant.
Exactement.
Nicolas. Eh bien, le 4 septembre, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, a publié une mise à jour de sa liste rouge des espèces menacées. Dans cette liste, le panda géant passe du statut d'espèce menacée à celle d'espèce vulnérable, soit le niveau d'alerte le plus faible parmi les trois catégories établies par l'UICN. Il faut dire que la population de pandas géants a doublé par rapport aux années 1980. On compte sur Terre aujourd'hui 1864 adultes. Et un total de 2060 pandas géants, si l'on compte les petits.
Est-ce que ça veut dire que ce panda géant est enfin sauvé ?
Eh bien, pas sûr, malheureusement. En effet, le rapport de l'UICN tire un nouveau signal d'alarme avec le réchauffement climatique qui réapparaît une fois de plus. Ce dernier pourrait en effet diminuer la population de pandas géants de 35% d'ici la fin du siècle. L'ours noir et blanc se nourrit en effet presque exclusivement de bambou et cette plante s'adapte mal au réchauffement climatique.
Panda géant COP21 et on en vient tout naturellement, Michel, à aborder une découverte qui montre comment certaines espèces animales tentent de s'adapter à ce réchauffement climatique.
Absolument, c'est le cas du diamant mandarin, Nicolas. Selon une étude publiée par deux chercheurs australiennes, Mylène Mariette et Catherine Buchanan, dans la revue Science du 19 août. Cet oiseau est très présent en Australie, il mesure 10 cm de long et pèse 15 grammes. Selon les chercheurs, il serait capable, écoutez bien, de programmer ses nouveaux-nés grâce à son chant, et cela avant même l'éclosion des œufs. Et pourquoi le diamant mandarin programme-t-il ainsi sa progéniture ? Pour la prévenir de l'augmentation de la température ambiante, bien entendu. Et nous avons d'ailleurs un petit aperçu de ce chant
l'oiseau mandarin.
Du diamant mandarin.
Ça veut dire qu'il fait chaud dehors ? Pas difficile de pas penser, en tout cas Michel, aux parents qui font écouter la cinquième de Beethoven à leur progéniture dans le ventre de la maman.
Bien entendu, sauf que le mandarin ne fait pas cela au hasard. Clémentine Vignal, qui travaille sur les systèmes de communication dans les relations sociales entre animaux au laboratoire Neuropsy de l'Université Saint-Étienne, nous confirme que ses travaux révèlent chez les mandarins un acte transgénérationnel précis.
C'est-à-dire des adultes qui vont communiquer à leurs descendants la température actuelle et donc permettre à ces descendants de se préparer dans leur développement à ces températures. Et c'est un mécanisme assez nouveau qui est mis ici en évidence pour comprendre comment les espèces pourraient réagir au changement climatique.
Pour Catherine Vignal, cette nouvelle publication présente ainsi une double nouveauté.
La première, c'est que les autrices, en l'occurrence, hein, puisque ce sont deux chercheuses, ont mis en évidence donc une communication entre les parents et leur embryon dans l'œuf. Ça a été assez peu étudié. La deuxième, qui est nouvelle, c'est de voir comment cette communication elle a un impact long terme, en fait, sur les embryons et sur les individus en devenir, en fait. Hein. Et donc, cette communication, elle va les suivre, en fait, longtemps. Et que ça va même leur permettre de s'adapter à leur environnement lorsqu'ils seront adultes, lorsqu'ils auront à leur tour à se reproduire et à avoir des petits. Ça, c'est vraiment les deux aspects très novateurs de cette étude.
Pour obtenir de tels résultats, les deux chercheurs ont enregistré les pépiments des diamants mandarins lorsque la température ambiante est normale d'une part, et d'autre part lorsqu'elle est plus élevée. Ensuite, elles ont diffusé ces sons par haut-parleur à des œufs placés en incubateur. Les oisillons qui ont entendu les pépiments météo chaudes dans l'œuf ont grandi plus lentement et éclos plus tard que les autres. Finalement, de taille plus petite, ils ont mieux contrôlé leur température corporelle. Plus surprenant encore, et cela rejoint ce que Clémentine Vignal a souligné, leur programmation musicale tant chaud les a conduits à avoir, une fois adultes, une progéniture plus abondante que celle des oiseaux ayant entendu le chant correspondant à la météo normale.
Ça fait sourire Christine Montalbetti, cette histoire d'oiseaux à qui on fait écouter de la musique.
Oui, mais je trouve ça très extraordinaire qu'on puisse émettre l'hypothèse en fait que ces chants sont destinés à signifier quelque chose à la progéniture à venir dans l'intérieur des œufs.
Ça semble plaider en tout cas pour une diffusion très précoce des bulletins météo, Michel.
Exactement, car quand ils sont couvés, les œufs restent à la température constante de 37 degrés. Impossible donc pour eux de savoir s'il fait chaud ou froid à l'extérieur. C'est donc le chant des parents qui sert de bulletin météo pré-éclosion, et ce bulletin arrive à point nommé, c'est-à-dire pendant le dernier tiers de l'incubation, justement au moment où le système de régulation de la température corporelle commence à se développer. Reste à déterminer la marge d'adaptation des diamants mandarins au réchauffement climatique.
Et pour conclure ce journal des sciences, Michel, un peu d'improbablogie, ces questions improbables que se posent parfois les chercheurs.
Je suis sûr que vous ne vous êtes jamais demandé, Nicolas, si le cannabis pouvait améliorer votre vision de nuit.
Je vous assure que je me suis posé des questions très étranges, plein de fois, mais pas celle-là.
C'est peut-être parce que vous n'avez jamais été amené à étudier des têtards, comme le font des chercheurs de l'Institut neurologique de Montréal au Canada. Ces chercheurs ont réussi à tester les capacités visuelles de têtards dans des conditions de faible lumière. Et ils ont eu l'idée d'administrer à ces larves de batraciens des taux élevés de cannabinoïdes, la substance active de la marijuana. Ils s'attendaient à ce que la neurotransmission entre l'œil et le cerveau soit réduite par la drogue. Or, bien entendu, car sinon l'expérience aurait eu peu d'intérêt, c'est le contraire qui s'est produit. Sous l'effet des cannabinoïdes, la vision des têtards s'est nettement améliorée. Comment est-ce possible, me demanderez-vous? Eh bien, grâce à l'hyperpolarisation des cellules de la rétine. Les chercheurs pensent qu'il faudrait réaliser la même expérience sur des rétines de souris, voire sur des cultures de cellules de rétine humaine. Avec l'homme en ligne de mire tout de même. D'autant que dans la littérature scientifique, des observations empiriques soutiennent que l'ingestion de cannabis a amélioré la vision nocturne de pêcheurs jamaïcains et marocains.
Non, alors c'est une très mauvaise idée. N'essayez pas ça à la maison. Ne suivez pas les conseils un peu douteux de Michel Alberganti. Et la nuit, on voit mieux quand on n'a pas fumé de chichon.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et on passe donc à notre table ronde fiction avec nos deux invités, Christine Montalbetti et Ken Liu. Vous publiez tous les deux un roman, Christine Montalbetti, La vie est faite de toutes petites choses chez POL, et L'homme qui mit fin à l'histoire, Ken Liu, au Bélial. Et ce qui m'a marqué à la lecture de vos deux ouvrages, c'est finalement un certain nombre de points communs assez saillants, et notamment une certaine idée du documentaire. Christine Montalbetti, dans La vie est faite de ces toutes petites choses, vous décrivez très minutieusement, vu de l'intérieur, le dernier voyage de la navette spatiale américaine Atlantis en 2011. On suit les quatre astronautes comme si on était avec eux, vraiment dans leur moindre déplacement, presque au-dessus de leur épaule, dans la moindre routine. Ken Liu, pour votre part, le titre complet de votre roman, c'est « L'homme qui mit fin à l'histoire, un documentaire ». Et la forme que vous adoptez est celle de la retranscription d'un film documentaire, séquence par séquence, presque plan par plan, film qui explique comment un couple de scientifiques a inventé une façon de revenir dans le passé et s'en sert pour faire jaillir la vérité autour d'un drame historique, l'unité 731, cette unité japonaise qui a procédé pendant l'occupation en Chine à des expérimentations humaines à grande échelle et massacré un demi-million de personnes. Alors, dans les deux cas, les sujets sont évidemment très différents, mais dans les deux cas, non seulement vous vous appuyez sur une réalité historique, mais aussi, je le disais, sur une volonté de travail documentaire. Est-ce que vous avez l'impression, pour commencer par vous, Christine Montalbetti, que vous avez effectué dans La vie est faite de ces toutes petites choses un travail documentaire, et pourquoi avoir choisi cette forme ?
C'est-à-dire, j'ai effectué un travail documentaire, mais le résultat n'est pas un document, mais un roman, et je pense qu'on aura le temps d'expliquer un peu les différences. Mais c'est vrai que c'est un roman qui est très informé et dans lequel je souhaitais que tous les détails soient exacts.
Vous l'avez fait grâce à une résidence du CNES.
Oui, donc j'ai eu une résidence au CNES qui m'a permis de rencontrer plusieurs astronautes. Et donc ça a été une partie ça du travail et aussi de la joie de travailler sur ce sujet, de rencontrer d'abord Claudie Aigneret et Jean-François Clairvoy. Et puis ensuite de rencontrer l'héroïne de mon roman, Sandra Magnus, à plusieurs reprises.
On y reviendra. Ken Liu, pourquoi cette forme de retranscription d'un documentaire filmé? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette forme narrative?
Moi, je suis très intéressé par le fait de raconter des histoires. Alors j'ai peut-être un point de vue un peu différent ici. La plupart des gens font une différence entre la fiction et le documentaire, le rapport aux faits. Et moi je trouve pas que c'est une distinction qui soit opérante. La distinction est vraiment c'est la façon dont l'histoire est racontée finalement. Il y a des histoires de fiction qui partent de faits. Et il y a bien sûr des documentaires qui ne contiennent aucun fait réel. Alors que ce soit factuel ou non, n'est pas une distinction opérante. Moi, je voulais essayer de raconter une histoire qui ne soit que des faits, mais en utilisant des techniques de la fiction. Et pour présenter ça dans la forme d'un documentaire qui soit donc une non-fiction.
Et dans les deux cas également, le contexte scientifique pour l'expédition Atlantis ou de la science-fiction pour le cas de Ken Liu, c'est en fait finalement juste une toile de fond, c'est-à-dire que ça n'est pas véritablement votre sujet, c'est un média, une navette, hein, si vous me passez, vous pouvez pas ne pas l'évoquer, qui vous sert à approcher autre chose pour servir un propos plus large, Christine Montalbetti. Pourquoi avoir choisi cette toile de fond scientifique?
En fait, j'avais été touchée par le fait que cette mission soit la dernière. Et je crois que le point de départ du roman, c'était vraiment aussi cette question-là de parler d'une dernière fois, de parler de ce sentiment-là des dernières fois.
Et on le sent tout au long du roman, c'est vraiment marqué. Il y a presque une sorte de mélancolie diffuse qui progresse jusqu'à la toute fin.
Oui, une mélancolie et qui se conjugue avec de l'humour aussi, mais bien sûr qui était un des enjeux du texte. Oui.
Vous me disiez à propos de votre rapport à la science-fiction, Ken Liu, avant cette émission, que finalement la science-fiction n'est pas tellement un genre qui vous intéresse, c'est vraiment juste un outil, une boîte à outils pour vous.
Oui,
moi j'écris selon les techniques de la science-fiction. Cependant, dans ce que je raconte, l'élément scientifique n'est qu'une métaphore pour quelque chose d'autre. Là, dans ce roman, dans ce court roman, c'est l'archéologie qui m'a vraiment, et ces pratiques qui m'ont vraiment influencé. En archéologie, l'objet que vous étudiez est détruit, il n'existe plus. Et ça, c'est un dilemme énorme dans ce domaine, dans le domaine de cette recherche, puisqu'on cherche quelque chose qui n'existe plus. Est-ce que l'on détruit ce que l'on étudie ou est-ce qu'on le laisse pour les générations futures?
Parce qu'il faut préciser que dans votre roman, on a donc l'opportunité de voir le passé, mais à chaque fois qu'on assiste à une scène du passé, on n'y a accès qu'une seule fois, elle s'efface, donc on efface l'histoire en quelque sorte.
Tout à fait. Et c'est pourquoi l'élément scientifique et les spéculations scientifiques dans mon roman sont effectivement de pouvoir voir la vérité historique. Mais dans ce processus-là, on la détruit. On ne peut pas y retourner.
Et on va voir avec vous tout à l'heure comment ce contexte-là vous permet de poser des questions beaucoup plus vastes sur notre rapport à l'histoire, notre rapport au passé et le poids du souvenir collectif là-dedans. Mais on va parler, pour commencer, avec Christine Montalbetti de ce roman « La vie est faite de ces toutes petites choses ». Je le disais, vous retranscrivez avec une minutie qui confine presque à un travail de dentelle, je trouve, cette dernière mission spatiale de la navette américaine Atlantis, la mission STS-135. C'était le 8 juillet 2011, souvenez-vous.
Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7... 6, 5, all three engines.
engines up and burning. 2-1-0 and liftoff, the final liftoff of Atlantis. On the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream.
Roger, roll, Atlantis.
Voilà le son de cette navette spatiale américaine Atlantis, son décollage le 8 juillet 2011. Vous nous disiez à l'instant, Christine Montalbetti, que vous aviez été sensible à cette notion de dernière fois. C'est quelque chose, effectivement, que on retrouve tout au long du roman jusqu'à la fin. Pourquoi l'histoire spatiale est marquée de plein d'événements marquants et de plein d'événements tragiques? Vous n'avez pas souhaité parler de Challenger ou de Columbia, par exemple? Vous vouliez que ce soit un happy end, entre guillemets?
Peut-être. Je crois que je n'aurais pas osé m'affronter à ces catastrophes. Je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être d'un peu impudique à le faire. J'ai toujours eu de la difficulté par rapport à cette question-là d'écrire sur des catastrophes. Je m'y suis confrontée un peu dans l'Ovotel qui se passait le jour du tsunami parce que je m'étais trouvée à Kyoto ce jour-là. Mais je m'étais appliquée justement à ne pas décrire le tsunami, à ne pas faire des phrases avec l'événement, les morts et simplement à évoquer dans la dernière ligne du roman la date et voilà, et tout prenait sens rétrospectivement.
Pourtant, ces catastrophes, elles sont présentes tout le temps, oui. En filigrane de votre récit. Oui. Hein.
Elles sont là comme une menace parce que c'est vraiment, bien sûr, deux moments qui habitent chacune des personnes qui sont en train de s'occuper de mettre en marche le lancement et de faire en sorte que la chose ait lieu, mais bien sûr c'est une menace qui reste présente. Il y a une gravité dans les visages au moment du lancement, puisqu'on a accès à beaucoup d'images qui bien sûr laissent penser que cette arrière-pensée est toujours présente.
Alors, on l'évoquait tout à l'heure, vous avez écrit ce roman grâce en partenariat, on pourrait dire en quelque sorte, avec le CNES. Racontez-moi un peu ce travail documentaire, combien de temps ça vous a pris? Vous nous avez dit que vous avez rencontré Claudie Aigneret, Jean-François Clairvoy, mais aussi l'héroïne de votre roman. Comment vous avez travaillé cette matière historique, même si c'est de l'histoire récente?
En fait, assez vite, ma manière de travailler a changé. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais documentée, mais simplement pour préparer ma rencontre avec les deux premiers astronautes, pour arriver déjà avec des questions un peu précises. Voilà, j'avais débrouillé le terrain, disons. Et puis très vite, je me suis rendu compte que on avait accès à une foule d'informations absolument considérables sur Internet, d'images vidéo qui avaient été postées et qui étaient de toute nature, qui pouvaient être aussi bien des images amateurs. Et là, on vient d'écouter le bruit du lancement. Ça m'émeut encore de l'entendre parce que je l'ai entendu des centaines de fois, filmé depuis différents points de vue de la côte, sur des vidéos amateurs. Il y a aussi les images des caméras de surveillance et puis il y a aussi des images des entraînements qui ont été filmés et qui sont postées comme ça et sans commentaire, qui sont des images brutes, qui seraient des images qui seraient impossibles à montrer, qui ne sont absolument pas à travailler.
Et dans lesquelles vous nous faites rentrer d'ailleurs à plein d'occasions. Il y a plein de moments, de chapitres où on rentre vraiment et où on entend même, on reparlera de la narratrice, de vous et de votre position par rapport à ce récit, mais où vous nous faites explorer ces images. On rentre, vous décrivez les personnages de l'arrière-plan, enfin, où il y a là un travail, je reviens sur mon idée fixe, mais un travail très documentaire et documenté.
Oui, parce que du coup, je me suis aperçue au fond de tout ce que ça pouvait changer, en tout cas, dans la manière d'écrire. C'est-à-dire que si j'avais écrit il y a 15 ans sur une autre mission spatiale, j'aurais été contrainte d'inventer des tas de choses, mais des détails qui n'auraient pas modifié la vérité scientifique de l'ensemble. Mais j'aurais inventé un frisson, j'aurais décrit un cadre en l'imaginant. Et je me suis aperçue que grâce à cet accès, au fond, je pouvais avoir accès même à des tout petits moments de ce qui allait devenir mon roman. Et donc j'ai eu ce désir de faire en sorte que tout soit exact dans le roman jusqu'au moindre détail, parce que ça m'intéressait aussi tout simplement d'un point de vue esthétique, pas seulement pour que la vérité soit maintenue, mais aussi pour voir ce qui se passait quand la phrase ne prenait plus dans ses raies, dans ses filets, que de l'exactitude.
Michel Berganti.
Oui, alors ce dernier vol d'Atlantis, c'est quand même aussi la marque d'un échec de la NASA qui a dû abandonner ses navettes parce que ce mode de transport n'avait pas donné les résultats attendus, en particulier économiques, hein, c'était beaucoup trop cher. Est-ce que cet aspect-là a transparé aussi dans votre expérience de tous ces événements, cette sensation que voilà, on a quand même raté quelque chose et qu'ensuite la NASA d'ailleurs se retrouve sans moyen d'accéder à la station spatiale pendant un certain temps.
Christine Montalbetti.
Oui, c'est un sentiment qui anime ceux qui s'occupent dans la salle de contrôle de mener le lancement. Après, moi, mon désir, ça n'était pas du tout de prendre parti sur cette question de échec ou réussite de la navette américaine. Et c'était surtout de trouver un lieu qui ne soit ni justement l'éloge de la grande aventure spatiale et le discours de l'héroïsation, ni un discours critique que j'aurais pu pour d'autres raisons mettre en œuvre, mais de n'être jamais dans le jugement, mais plutôt de m'intéresser à essayer de rendre compte de ce monde qui m'était étranger a priori dans l'écriture.
Mais avant de vous lancer dans cette écriture, vous aviez un tropisme spatial, vous aviez des papillons dans le ventre quand vous regardiez les nuits étoilées, par exemple, Christine Montalbetti.
Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que dans le roman précédent, il y avait une petite scène où deux amis s'asseyaient à la fin de la nuit sur le seuil d'un bar et regardaient la lune et pensaient à la chienne Laika qui avait été envoyée par les Soviétiques. Voilà. Donc, peut-être que ça. Après, il y a aussi des causes. Il y a des causes anecdotiques qui, par exemple, que le CNES m'a demandé d'écrire une nouvelle, et c'est à cette occasion donc que j'ai découvert cette dernière mission. Et dans la nouvelle que j'avais écrite, en fait, deux amis roulaient dans le Sunshine State jusqu'à l'heure de lancement et rêvaient de ce lancement. Et je me suis sentie frustrée au fond d'être restée au sol, et j'ai eu envie de décoller et d'aller plus loin.
Vous le disiez tout à l'heure, vous avez rencontré donc Claudie Aigneré et Jean-François Clairvoy, mais vous avez surtout rencontré votre héroïne, votre double un peu, je trouve, à la lecture du livre, Sandra Magnus, qui est votre personnage principal. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez échangé avec elle? Qu'est-ce qu'elle vous a confié?
En fait, je l'ai vue à deux reprises. La première fois, c'était à Paris, où elle venait faire une conférence devant un petit public, et c'était très émouvant pour moi de la voir entrer dans la salle, enfin de simplement de voir son corps, de voir ses gestes, de voir la manière dont elle bougeait. C'était un peu comme si mon personnage entrait dans la salle. J'avais déjà pas mal avancé le chantier du roman, et ça m'a touchée de pouvoir voir aussi comment elle bougeait, de pouvoir décrire ses mains, de voir la façon dont au fond ce corps qui avait été dans l'espace, parce que c'était ça aussi qui me fascinait en dehors de cette question des dernières fois qui était importante pour moi, c'était cette question de ce que ça change un corps qui a été dans l'espace et de ce que ça change évidemment des perceptions du monde réel auquel nous sommes habitués au retour. Et donc il y a cette espèce d'aura, non, aussi les astronautes sont enveloppés, qui est ce fait qu'ils ne sont connus d'autres lois que les nôtres et que leur corps a expérimenté des choses qui nous sont étrangères. Donc ça a été cette première rencontre, surtout un moment où je l'ai regardée, bouger, où je l'ai, à la fois je l'imaginais dans l'espace et à la fois je la voyais reconquérir en fait le monde de la gravité qui est le nôtre. Et puis la deuxième fois où je l'ai rencontrée, c'était donc aux États-Unis, à Reston, où elle travaille en Virginie, et où là nous avons parlé du roman, bien sûr.
Qu'est-ce que vous vous souvenez des premiers échanges que vous avez eus? Quelle est la première question, par exemple, que vous lui avez posée quand vous l'avez rencontrée?
J'ai commencé par essayer de lui présenter le roman. Je raconte un peu la scène dans le roman, puisque ces rencontres avec les astronautes, à la fois ça a été des moments précieux dans l'écriture, mais aussi des moments en soi, et ils arrivent dans le roman d'une manière ou d'une autre. Donc je raconte cette rencontre avec Sandra Magnus. J'ai essayé de lui rendre compte du projet du roman à un moment où j'avais encore une idée d'un roman qui serait assez rêveur, qui parlerait aussi peut-être, pourquoi pas, de Jules Verne, de Fritz Lang et de son merveilleux merveilleux film La Femme sur la Lune. Et finalement, le roman a changé en cours de route, justement, à partir du moment où j'ai eu accès à tant d'informations sur Internet, et où, par exemple, elle m'a dit qu'elle avait posté des recettes de cuisine qu'elle avait faites dans l'espace, ou voilà, où toute une documentation comme ça, où j'ai pu accéder à toute une documentation. Surprenant.
C'est intéressant parce que donc cette forme qui est celle de ce roman, La vie est faite de toutes ces petites choses qui s'attarde sur le quotidien, le commun, sur les petits gestes, sur les routines où on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, au-dessus de leur épaule, on a vraiment l'impression d'être à côté d'eux. Comment est-ce qu'elle est née cette idée de décomposer cette histoire qui est un pan, la fin d'un pan d'histoire spatiale en ces tout petit rien, si vous m'autorisez l'expression, Christine Montalbetti.
Alors, je crois qu'il y a deux raisons. Il y a une raison qui est liée au sujet, au fait que simplement, comme tout est beaucoup plus compliqué dans l'espace, il faut retenir les objets qui s'envolent, il faut tout accrocher avec des scratchs, il faut être très prudent dans ses gestes. Au fond, une mission spatiale, c'est aussi une suite de tout petits gestes, prudents, précautionneux. Et puis, il y a aussi une raison esthétique, qui est que jusque-là, dans mes romans, je privilégiais beaucoup les scènes de macroscopie, les zooms sur des toutes petites choses, sur un insecte qui passe, sur un sucre, et que donc cette attention-là aux petits détails, voilà, ça devenait une autre manière de traiter ce rapport aux petites choses et à la matérialité aussi de notre rapport au monde.
Je pourrais résumer ça en disant que si vous, entre le small step for man et le giant leap for mankind, vous avez choisi le small step.
Oui, si vous voulez. Mais...
Il y a une autre question que je voulais vous poser, c'est ce choix de la narratrice, puisque vous êtes présente tout au long du roman, vous le disiez, vous racontez vos rencontres, vous racontez votre travail de recherche, et même vous intervenez tout le temps. Je prends un exemple, par exemple, page 150, les heures passent vite et à 17h59, il sera temps d'aller au lit. Mais minutes, on ne voudrait pas terminer cette première journée sur la station sans être allé voir la coupole. Parce que vous ne m'avez pas encore laissé le temps de vous parler de la coupole. Représentez-vous un dôme hexagonal, etc., etc. Donc vous intervenez tout le temps. Pourquoi vous ne vouliez pas vous livrer les clés de ce récit à votre seule héroïne, Christine Montalbetti?
Non, je suis toujours intervenue aussi dans mes romans parce que pour moi, ce qui est au centre de l'écriture du roman, c'est quand même la relation avec le lecteur. Écrire. Je conçois vraiment l'écriture comme un geste adressé et donc j'ai besoin constamment de m'adresser au lecteur, d'échanger avec lui, parfois d'imaginer ses réactions, ou voilà, d'être dans une relation comme ça de conversation avec le lecteur et alors a fortiori dans ce roman où il fallait quand même l'emmener dans l'espace.
Alors, je vais évidemment ne rien dévoiler de la fin du roman, même si l'histoire est connue. Mais tout de même, il y a un petit changement qui est un changement significatif. Tout le roman, je le disais, est au présent de narration. On est là, on est en train de regarder les personnages bouger, les choses se faire, l'histoire s'écrire en même temps. Et d'un seul coup, à la toute fin, vous passez au futur. On change de temporalité, on reste presque en suspens dans l'espace. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'était une manière de, paradoxalement, de faire une fin ouverte. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut savoir que la mission s'est bien passée, que les astronautes sont bien rentrés, mais on s'arrête juste avant le retour, dans l'imagination de ce retour. Et ça faisait partie aussi alors, je n'aime pas beaucoup le mot stratégie d'écriture, mais disons de la manière dont il s'agissait, face à cet ample matériau documentaire, à cet immense matériau documentaire, à la fois de transmettre le vertige de cette ampleur, mais aussi de ressaisir ce matériau dans des procédés qui étaient vraiment des procédés romanesques et des procédés de suspense. Donc, il y a des moments de suspense où on s'inquiète d'une alarme et il y a aussi cette fin ouverte, comme dans beaucoup de mes romans, j'aime que la fin soit incertaine.
Ken Liu, une réaction à ce que vous voulez d'entendre à ce projet littéraire qui est celui de Christine Montalbetti?
Ce qui m'a frappé, vous savez, c'est la description de Christine, de ce document, de cet espace, de cet énorme lot d'informations documentaires auxquelles on a accès maintenant. Il y a une analogie qu'on peut trouver dans la vie moderne. Cette idée de trouver, essayer de trouver sens, essayer de trouver un sens, essayer de faire un une narration à partir de toutes les informations qui coulent partout. Nous sommes bombardés par tellement d'informations partout. Ces informations crues qui, chaque fois, nous laissent éveillés. Et parfois, de s'orienter, de s'intéresser à une histoire toute simple, c'est plus compliqué. Moi, je suis beaucoup sur Twitter, mais aujourd'hui, Twitter, si jamais je ne filtre pas des centaines de mots clés, je trouve que c'est impossible pour moi de suivre. C'est impossible de suivre une ou deux personnes sur Twitter autrement. Il faut vraiment mettre de grands filtres pour pouvoir utiliser ce service, pour moi en tout cas. C'est peut-être quelque chose d'aujourd'hui, et c'est peut-être pas quelque chose qui nous vient du passé. Dans le passé, on vivait une vie plus simple, semble-t-il. Et souvent, on s'intéresse beaucoup à ce qui a été répété, et c'est essayer de refaire, on essaie de retrouver, d'en tirer une vérité éternelle. Mais la vie moderne est tellement négative, il y a tellement d'espace négatif qu'il faut gérer. C'est comme vraiment, comme on nage au milieu de l'information, dans les lettres, dans les écrans. Il y a ces spécialistes des médias aux États-Unis qui parlent de comment les générations sont définies aux États-Unis par le nombre d'écrans qu'il y a chez eux. Chez moi, on était tranquille avec deux écrans, ça suffisait. Des gens plus jeunes ont besoin d'avoir 4, 5 ou plus d'écrans, vous vous rendez compte. Et donc, il nous faut de plus en plus filtrer pour essayer de garder un sens commun et de pouvoir tirer quelque chose d'utilisable à partir de ces informations. Et on se demande vraiment quelle sera la prochaine étape de cette évolution.
Et sur la conquête spatiale, l'un et l'autre, c'est quelque chose qui fait encore rêver. On rêve encore d'espace, comme à l'époque où on envoyait des hommes dans des navettes. Christine Montalbetti, vous suivez un peu l'actualité. Michel Berganti parlait tout à l'heure de Rosetta. On a suivi ça comme une épopée, d'ailleurs totalement humanisée, totalement anthropocentrée, puisqu'on a nommé Rosetta, on les faisait dialoguer, on les faisait tweeter d'ailleurs. Rosetta et Philae s'envoyaient des tweets.
Je crois qu'il y a un grand trouble autour de ça, et puis il y a cette perspective dont il est difficile de dire si c'est vraiment un futur possible ou simplement un mythe, mais cette idée d'aller sur Mars et aussi cette espèce de fantasme autour de la Terre qui s'abîmerait et qu'il faudrait peut-être qu'un jour nous quittions tous pour aller reconstruire une vie sur une autre planète, pourtant pour l'instant encore plus hostile.
Ken Liu, la conquête spatiale, l'aventure spatiale, c'est quelque chose que vous suivez, qui produit encore un peu de rêve et d'espoir?
Je suis assez partagé sur la conquête spatiale. Bien sûr, il y a l'argument qu'il y a tellement de problèmes sur Terre, pourquoi donc aller chercher dans l'espace? En même temps, il y a quand même une histoire que nous entretenons avec les étoiles et qui existe depuis des centaines d'années, et c'est émouvant, quelque part. Au bout du compte, c'est une question de risque, à prendre et de gérer ces risques. Que la race humaine habite sur ce petit amas de terre tellement fragile semble une idée pas si bonne que ça. Et ce que vous avez dit tout à l'heure sur ces oiseaux qui parlent et qui chantent à leurs œufs, peut-être que c'est quelque chose qui sera utile. Et peut-être que ce sont quelque part les aliens qui vont nous parler à nous, ces œufs, à un moment où sur notre planète tout se réchauffe et que peut-être il est temps de partir. C'est peut-être fait partie du mystère, peut-être.
Et dans vos nouvelles, Ken Liu, en tout cas les aliens, ils nous effacent la mémoire et on va parler dans un instant de votre dernier roman, L'homme qui mit fin à l'histoire.
Épate à douloureux ne revient jamais.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Science-fiction de Christine and the Queen, c'est le choix de notre réalisatrice Elisabeth Miro. On va poursuivre cette table ronde fiction avec notre deuxième auteur, Ken Liu, auteur donc de L'homme qui mit fin à l'histoire aux éditions du Bélial. Je vais vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs. Vous êtes né en 1976 à Lanzhou en Chine. Vous avez émigré aux États-Unis à l'âge de 11 ans. Vous avez fait des études de juriste à Harvard et vous êtes donc un auteur récemment traduit en français grâce aux très bonnes éditions du Bélial. Il y a eu un premier recueil de nouvelles sorti l'année dernière en France, la ménagerie de papier. Vous avez d'ailleurs gagné, ce n'est pas rien de le dire, le prix Hugo de la nouvelle. Hein, c'est la plus prestigieuse récompense en science-fiction pour l'une des nouvelles de la ménagerie de papier, Monono Ware. Et sort donc maintenant ce petit roman très court, une grosse nouvelle, une novella, comme on dit aux États-Unis, L'homme qui mit fin à l'histoire, une centaine de pages. L'homme qui mit fin à l'histoire, un documentaire, donc hein, c'est le titre complet. Et le récit prend la forme de la retranscription d'un documentaire, séquence par séquence, un documentaire fictif, bien entendu, mais qui raconte comment, dans un futur proche, un couple de scientifiques a mis au point un procédé qui permet de retourner dans le passé, d'être à nouveau témoin du passé, plus précisément, sans possibilité d'intervenir, mais avec un bémol de taille. Une fois que l'on a assisté à une scène du passé, eh bien, on ne peut plus jamais y avoir accès. On l'efface, hein, en quelque sorte. Et ce procédé, donc, va être utilisé pour éclairer l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire chinoise, celui de l'unité 731.
C'est là, à deux pas de cette petite gare de Mandchourie, tout au nord de la Chine, que de 1938 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs milliers de prisonniers de l'occupant japonais ont servi de cobayes aux médecins d'un centre secret. Aucun cobaye, homme, femme ou enfant, n'est jamais sorti vivant des laboratoires de l'unité japonaise numéro 731. Ils sont tous morts d'injections de peste, de choléra, de typhus, de typhoïde, sinon sous le scalpel en salle de vivisection, ou encore en chambre froide ou chambre à gaz. Après-guerre, lors des procès à Tokyo des criminels de guerre japonais, aucun dirigeant de l'unité 731 n'a été condamné, ni même inquiété. Ils ont même été protégés.
Voilà, extrait de Kizu, les fantômes de l'unité 731, un documentaire de Serge Vialet. Alors, racontez-moi, parce que c'est effectivement très touffu pour un récit aussi court, quel est le point de départ de ce récit? De quoi vous voulez nous parler au départ? Est-ce que vous voulez nous parler de notre rapport à l'histoire? Est-ce que vous voulez remettre en lumière ce point sombre de l'histoire? Quelle est exactement la volonté de départ de ce récit, Ken Liu?
So I don't have a single project.
Je n'ai pas finalement un projet qui puisse être résumé en une seule chose. Ces projets de fiction avec une seule idée fonctionnent rarement pour moi. Ce roman, je l'ai écrit pour explorer des difficultés que nous avons avec l'histoire. Je trouve que nous avons une relation très conflictuelle avec l'histoire. D'un côté, nous lui demandons d'être pleine de détails, des faits, des vérités factuelles. Et de l'autre côté, on lui demande aussi d'être émouvante, d'être finalement, de se raconter, de bien se raconter. On veut, quelque part, nous raconter l'histoire de l'Holocauste par des numéros, par des chiffres. Et pourtant, on a besoin aussi d'histoires comme celle d'Anne Frank. Et on demande ces deux choses. Et on pense que nous comprenons l'histoire quand nous avons ces deux perspectives, l'une et l'autre. Mais la réalité, c'est pas ça. Nous sommes une espèce extrêmement étrange parce que nous nous croyons rationnels alors que nous sommes en fait conduits par nos erreurs et par plein d'erreurs cognitives que nous commettons. Par exemple, notre réaction en Europe à la Deuxième Guerre mondiale est vraiment finalement influencée par
des mots et par tout un vocabulaire que nous avons trouvé, les Allemands, les nazis. Et nous devons finalement différencier les nazis des Allemands pour savoir qui en condamne. Et nous devons, donc, en utilisant le mot nazi, nous pouvons sauver les peuples allemands de toute condamnation. Et c'est un jeu linguistique amusant. Et ça, mais la vie n'est pas aussi, la réalité n'est pas aussi simple. Au Japon, d'un autre côté, nous n'avons pas de jeu linguistique à jouer. Il n'y a pas d'équivalent au nazisme pour parler de cet aspect de la société japonaise pendant la guerre, qui a commis ces crimes atroces. Voilà pourquoi, quand on discute, quand on parle de ces crimes commis par la nation japonaise, quelque part, on n'arrive pas à condamner les choses de la même façon. Quand on parle des nazis, on ne parle pas du peuple allemand. On ne dit pas que les Allemands étaient des diables et qu'ils étaient des mauvais. Alors que pour le crime japonais, ça devient ça, puisqu'ils sont confondus les mots. Et je crois que ce n'est pas seulement un jeu linguistique, c'est une histoire de créer des mots, trouver des mots pour séparer le diable du non-diable. Et nous n'avons pas un mot comme ça pour le Japon. Voilà pourquoi j'ai écrit cette histoire. Pour essayer de voir qu'est-ce que ça signifie de réfléchir, de se confronter à l'histoire sans avoir ces mots-là et ces outils-là. Ça devait être une histoire, finalement, qui parlait d'historiographie, de savoir comment on écrit l'histoire, comment on réfléchit à l'histoire, et comment nous pensons être rationnels par rapport à l'histoire, et que nous avons plein de preuves historiques, alors que finalement, il y a beaucoup de mensonges, et que nos décisions et notre façon de voir l'histoire est très émotionnelle, et que parfois, on prend la logique pour s'écarter de la réalité.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est passionnant, c'est que vous soulevez un certain nombre de questions historiographiques, de questions morales, de questions philosophiques dans ce petit récit qui complique les choses puisqu'il y a deux données. C'est que la première, je le disais, on peut effectivement retourner dans le passé, mais voir le passé, donc le faire ressurgir, c'est aussi de l'effacer. On n'y a accès qu'une fois. Une fois que c'est vu, on ne peut plus le revoir. Et l'autre question morale passionnante que vous posez, c'est que les personnes qui vont pouvoir retourner assister à ce passé, et donc l'effacer, sont des descendants des victimes. Quel est le corpus philosophique que vous avez voulu intégrer pour justement dénoncer, définir ce rapport à l'histoire qui est le rapport qui est le nôtre et ce rapport justement à la mémoire collective d'un holocauste?
Je voulais travailler la question de l'histoire personnelle par rapport à l'histoire collective. En Occident, et surtout aux États-Unis, il y a l'idée que l'histoire, ce n'est pas important, que la responsabilité individuelle et la morale individuelle, c'est la seule chose qui est importante. Aux États-Unis, il y a souvent beaucoup de commentaires, souvent qui reviennent, les discussions sur la justice sociale, sur l'identité du groupe, et que ce sont des données qui ne nous aident pas, et que c'est en tant d'individu qu'il faut nous définir, que l'idéal, c'est que les commentateurs américains appelleraient, ils diraient, ben voilà, moi je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas la couleur de la peau. Que votre couleur de peau soit le rose ou le bleu, peu importe. Si vous faites un effort, vous y arriverez et vous pourrez vraiment gagner. L'histoire de votre identité n'a aucune importance. Mais ce qui est ironique, c'est que les gens qui ont ces jugements viennent toujours de groupes ethniques qui sont les gagnants et qui ont les privilèges. Ce sont eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui écrivent les livres d'histoire et qui créent ces déterminations. Et donc c'est bien facile de dire que l'histoire ne compte pas quand on est du bon côté, quand on ne veut pas se rendre compte que ça forme l'histoire. Nous vivons en fait dans un monde où nous ne sommes pas libres de choisir. Nous sommes restreints par nos réalités sociales, par le milieu dans lequel nous sommes nés. Si vous êtes né un certain endroit sur Terre, vous avez des choix qui vous sont proposés qui ne sont pas proposés si vous êtes né ailleurs. Et ça, c'est la vérité, c'est comme ça. Et je voulais travailler ça. Je voulais explorer ces injustices historiques, ces déséquilibres de pouvoir, et comment le passé a une influence critique sur le présent, mais aussi sur l'avenir. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que l'histoire, c'est le destin, que votre identité détermine tout. Mais je veux vraiment dire fortement qu'il y a des contraintes et qu'on n'est pas libre, comme parfois on dit qu'on l'est. On est parfois libre de faire certaines choses, mais pas de faire d'autres. Et c'est notre combat dans la vie de devoir nous en tirer et d'essayer d'en tirer quelque chose de positif.
Et à ce propos, ce que vous dites est intéressant, puisqu'il y a un personnage dans le livre qui est l'un des deux scientifiques qui s'appelle Evan Way, qui est une sorte de double de vous, hein, qui est un chercheur sino-américain qui cherche à rééclairer donc cette histoire, ces pages sombres de l'histoire de la Chine et du Japon. Et il dit, page 72, je cite, la position de Way, donc de ce personnage, c'est que sans vraie mémoire, il ne saurait y avoir de vraie réconciliation. Sans vraie mémoire, les individus de chaque nation n'ont pas pu ressentir ni se remémorer la souffrance des victimes. Individualiser le récit que chacun de nous se fait des événements est un prérequis avant de pouvoir s'extirper du piège de l'histoire. Telle était dès le départ la nature du projet. Est-ce que c'est votre point de vue à vous aussi, Ken Liu?
Je ne dirais pas
que j'ai exactement le même point de vue. Kewan. Vous savez, ce court roman, c'est de la fiction. Et j'ai l'habitude de ne pas mettre trop de moi-même dedans. Il y a des choses que Ewan dit qui sont des choses auxquelles je crois. Moi-même, il y a des choses aussi qu'il dit dans lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Voilà ce que je pense de cette histoire et de l'individualisation de l'histoire. Je pense que l'espèce humaine a vraiment développé la fiction comme une façon de comprendre la réalité. Et nous pensons que nous pouvons comprendre le monde par les mathématiques, par la raison, par la rationalité, par le débat. Mais au bout du compte, on en arrive toujours à des histoires. C'est pour ça que je suis toujours très frustré en période d'élection. Tout le monde participe à des élections comme si c'était un débat rationnel, avec des faits. Mais n'importe quel avocat peut vous dire que vous pouvez toujours parler de la vérité tant que vous voulez, mais ce qui arrivera et ce qui fera justice devant un jury, c'est l'histoire, c'est la dramaturgie. Alors moi, ce que je veux faire, c'est expliquer à quel point les histoires, c'est important, et que finalement, de raconter la meilleure histoire, la vraie histoire, c'est vraiment important. On ne peut pas vivre sans des histoires. Nos esprits ne peuvent pas. Notre esprit est fait pour croire en l'histoire.
Un tout dernier mot, puisqu'on arrive au bout de cette émission, une question que je pose aux auteurs et aux artistes qui sont autour de cette table ronde de la méthode scientifique. S'il y avait un livre de science-fiction qui vous aurait marqué l'un et l'autre et que vous aimeriez faire partager à nos auditeurs, Christine Montel-Betty, ce serait lequel?
J'aurais peut-être envie de dire L'homme invisible, à cause de ce trouble que j'ai éprouvé dans le moment où le roman explique comment on arrive à l'invisibilité, la méthode pour devenir invisible. Et ça puise dans une espèce de savoir commun sur ce qu'on sait de la lumière, ça commence comme ça, et on se dit mais oui, ça me rappelle des cours de physique sur la lumière, et on croit qu'on va accéder au secret.
Et Ken Liu, très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Le livre que j'aimerais recommander a été très important pour moi. Il s'appelle « La nature de la technologie » par W. Brian Arthur. Il traite des théories de technologie et comment la technologie a évolué. Et il dit que la technologie n'est qu'une poésie. Une poésie est belle, qui est belle. Et je vous recommande vraiment.
Merci beaucoup, merci à tous les deux pour ces conseils de lecture. Je vous recommande pour ma part vivement La vie est faite de ces toutes petites choses de Christine Montel-Betty aux éditions POL, ainsi que L'homme qui mit fin à l'histoire aux éditions du Bélial de Ken Liu, ainsi que La ménagerie de papier toujours aux éditions du Bélial. mondiale. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver Ken Liu ce week-end au Festival America à Vincennes. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pendant cette heure. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lausanne, Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro et à la technique Pierrick Monsigny. Et un aperçu du programme de la méthode scientifique la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons prolongation de la vie, mais à quel prix? Mardi, nous recevrons l'astrophysicien Trinh Tuan Tuan. Mercredi, il sera question des matériaux de demain. Jeudi, de ce que la science peut faire pour la conservation du patrimoine. Et vendredi prochain, table ronde d'actu. Et un grand et chaleureux merci à Michel Alberganti qui est à côté de moi, qui a accompagné avec bienveillance, talent et intelligence la néthos de la méthode scientifique. On le laisse voler vers de nouveaux cieux, mais avec une pointe de regret tout de même. Vous allez nous manquer, Michel.
Merci Nicolas.
Et nous on se retrouve lundi 16h jusqu'à preuve du contraire.